Ouais, j'allais dire, j'espère que vous êtes prêts à recevoir ce matin, mais je vais dire en fait, j'espère que vous avez déjà reçu quelque chose. Amen. Donc avant de débuter, hein, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois aujourd'hui. Donc si on peut les accueillir comme il se doit. On a un petit cadeau bienvenue qu'on aime vous remettre lorsque vous venez. Donc, s'il y a quelqu'un, soyez pas gênés, juste levez la main, on va vous remettre ça pour vous souhaiter la petite bienvenue. Donc, dans le sac, un petit cadeau, un petit quelque chose pour vous expliquer qui nous sommes. Amen. Ici, à la Vie Comblée. Donc, ici, Pasteur Ken Mafou, pasteur principal de l'Église de la Vie Comblée. Pour ceux qui sont ici depuis peu, écoute, deux pasteurs Ken, c'est peut-être un peu mélangeant. Un mot justement de l'autre pasteur Ken Taylor, qui est présentement en Haïti, amen, et qui vous envoie ce petit mot. Donc, il voulait envoyer un petit vidéo, fidèle à son habitude, mais ça n'a pas fonctionné ce matin. Donc, je vous lis son petit message qu'il m'a envoyé. Donc, non, je suis pas en train de texter, ok, c'est un message. Salut pasteur Mafou et toute la famille de la Vie Comblée. Je vous envoie tout mon amour à partir d'Haïti. Ce matin, j'ai eu l'honneur d'apporter la parole dans une église d'environ 2000 personnes, dont un de nos diplômés. Pardon, Raymond en Haïti est assistant pasteur. Donc, c'est ça, j'ai essayé d'envoyer une vidéo, mais je ne pouvais pas l'envoyer. Je vous aime fort, le Seigneur est à l'œuvre, pas seulement en Haïti, mais le meilleur est à venir également pour le Québec. Amen. Donc, nous y croyons fermement, amen, que le meilleur est à venir pour le Québec également. Wow! Donc ce matin, le message que j'ai à cœur d'apporter, que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter, donc pour les prochaines semaines, le titre c'est « Contre toute attente ». Amen. Contre toute attente ou à la conquête de votre réveil. Amen. À la conquête de votre réveil. Est-ce que les gens qui écoutent les Olympiques de ce temps-ci à la télé, amen, est-ce qu'il y a certaines personnes, oui? Oui, soyez pas gênés, c'est pas péché de regarder la télé, ok? Est-ce que oui, d'accord. moi, je regarde les Olympiques, un amateur de sport que je suis, j'aime bien regarder ça. C'est des bons moments. Écoute, il y a des sports un peu moins olympiques pour moi, comme bon le ping-pong. Mais écoute, les sports que j'aime bien, l'athlétisme, hein, c'est des sports vraiment où ce qu'on voit les athlètes qui se dépassent, qui amènent le corps à un niveau où des fois, tu croirais pas possible que notre corps est en mesure de faire. Et justement, prochainement, là, ça va être les compétitions d'athlétisme, mais spécialement le 100 mètres. Moi, j'aime bien le 100 mètres. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et dans le monde du sport, hein, surtout ici aux Olympiques, il y a des gens qu'on appelle des favoris. Il y a certains athlètes que tout le monde s'attend à voir gagner. Amen. J'étais ici cette semaine à l'église, donc je travaillais là, mon téléphone, je reçois un message texte et c'est ma femme qui me texte, qui me dit « Michael Phelps a gagné une médaille ». Et je lui réponds « Oh, wow, quelle surprise ». Okay? Pour ceux qui connaissent pas Michael Phelps, c'est un nageur américain qui est le plus grand médaillé de tous les temps des Jeux olympiques. Okay, il termine supposément cette année et il a cumulé à travers sa carrière olympique, je crois, si je ne m'abuse, 28 médailles, dont 23 ou 24 d'or. C'est les quatre autres contre-performances des médailles d'argent. Hein. Quand lui va pas bien, une mauvaise journée, c'est une médaille d'argent. Okay? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que Michael Phelps est dans l'eau, il gagne quelque chose. Amen. Donc, lorsque j'ai reçu ce message de ma femme, écoute, c'était loin d'être une surprise pour moi, parce que je pense que le monde entier s'attendait à ce que Michael Phelps remporte au moins une médaille. Okay? Et 90% des gens s'attendaient à ce qu'il remporte l'or. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il y a des gens qui l'emportent contre toute attente. Il y a des gens sur qui personne ne parie, mais sortent avec une médaille. Il y a des gens que les statistiques, hein, les gens, ils aiment bien ça dans le monde du sport, les statistiques. Oh, il n'y a aucune équipe dans l'histoire qui a réussi à faire ci, aucun nageur, il n'y a aucun athlète qui a réussi à faire ça. Il a fini dans les derniers jeux, il a fini 16e, le championnat du monde, il a fini 10e, donc il n'y a aucune chance cette année qu'il termine sur le podium. On parlait de ça, des Red Sox, hein, la série mondiale qui tirait de l'arrière. Et le pasteur Côté en avait parlé un mercredi soir, qui tirait de l'arrière 3-0 dans la série. Hein, la première équipe qui rencontre 4 victoires remporte la série, mais il tirait de l'arrière 3-0. Dans toute l'histoire, il n'y avait aucune équipe qui était revenue à perdre 3-0 et finalement gagner la série. Mais leur cri, leur chant à ce moment-là, à l'équipe des Red Sox, c'était quoi? C'était... Pourquoi pas nous? Amen? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, la première équipe à écrire l'histoire? Pourquoi pas nous, non seulement à écrire l'histoire, mais à réécrire l'histoire? Que lorsqu'il va être écrit, aucune équipe dans toute l'histoire du baseball n'a réussi à faire ça, oups, on va être obligé d'effacer, sauf les Red Sox de je ne me rappelle plus quelle année. Amen? Parce que, merci, 2004. Parce que dans vos vies, vous voyez, il y a des statistiques aussi. Amen. Mon arrière-grand-père est décédé de ci. Mon grand-père est décédé de ça. Mon père est atteint de ça. Donc, les statistiques veulent que moi également, je meure de ça. Dans ma famille, il n'y a jamais personne qui est allé aux études. Donc, les statistiques disent qu'il y a peu de chances que moi, je fasse des hautes études. Amen. Je peux vous en nommer des statistiques, là. Des statistiques, ceux qui ont grandi sans un père proche d'eux ont plus tant de pourcents de chances de grandir, hein, d'aller vers le crime, d'aller vers ci, d'aller vers ça. Hein. Des statistiques sur nos vies, il y en a. Des statistiques, même avant que certains enfants voient le jour, il y a déjà des statistiques sur leur vie. Mais voyez-vous, les statistiques, tout ce que ça fait, c'est dénoncer des faits. Mais le problème, c'est qu'à force de se baser sur ces faits-là, on bâtit, on crée une réalité. Une réalité qui, malheureusement, n'avait pas à devenir la nôtre, mais parce qu'on a mis nos yeux sur les statistiques plutôt que sur la réalité de ce que la parole de Dieu dit de nous, on en vient à être tout simplement une autre statistique. Et on dit des choses comme « Mais je savais ». Mais c'était sûr, avec la famille qu'il a, c'est évident qu'il tourne comme ça. Avec l'éducation qu'il a eue, c'est certain. Avec tout le bagage de maladie dans sa famille, comment tu veux qu'il en soit autrement? Et on achète ces choses-là. On les porte, ces choses-là. Et on avance dans la vie en déclarant la parole, mais en portant le manteau des statistiques. Et on se demande des fois pourquoi il y a quelque chose qui cloche dans notre marche. C'est comme d'être dans une équipe avec le mauvais chandail. Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes sur le banc, « Hey, come on, les boys, come on, on va réussir, on va y aller. » Et tout le monde dit, « Regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi tu n'as pas le même chandail que nous? » Et on est là, on tente de vivre cette vie-là chrétienne, dans la victoire, et même de continuer, de persister. Et constamment, on a des embûches, et même, et oui, la réalité, c'est que, écoute, on a un ennemi. Mais on tente de confesser, on tente de marcher, on tente d'accéder à la victoire, alors que tout ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a jamais personne dans l'histoire qui a réussi à faire ça. Vous croyez que les Red Sox, lorsqu'ils ont dit « Pourquoi pas nous? » C'était la seule manière pour eux d'espérer y arriver. C'était la seule façon pour eux d'espérer y arriver, c'est de déclarer, même eux, ont compris que peu importe ce que les autres disent, ça dépend de ce que moi je vais décider. Et leur ennemi, l'équipe la plus puissante du baseball. Okay? Est-ce que vous pensez que leur ennemi voulait les laisser faire l'histoire? Non. Pas plus que votre ennemi veut vous laisser faire l'histoire. Okay? On va dire ce matin, j'ai un ennemi. Okay? Mais j'ai un Dieu. Les statistiques, c'est pas pour nous. Amen. Les statistiques, hein, je vais le dire encore une fois, ce n'est pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais si vous voulez des statistiques, je peux vous en donner. Parce que la Bible donne des statistiques. Amen. Si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous faire du mal. C'est quand même des bonnes statistiques, ça. N'est-ce pas? Okay. Avec toute tentation, je vais vous donner le moyen de vous en sortir. Amen? Il n'y a rien qui va arriver au-dessus de vos forces. Vous voulez des statistiques? Prenez celle-là. C'est le genre de statistiques qu'il faut dans vos vies. Ouf. Parce qu'à quoi est-ce que vous vous attendez? Amen. Contre toute attente. Il y a le monde qui a des attentes sur vous, mais quelle attente avez-vous vous-même? Envers vous-même, envers votre vie, envers votre entourage, envers votre situation. Est-ce que vous avez des attentes comme la veuve que, hein, vers qui le Seigneur a envoyé le prophète Élie pour être surnaturellement nourri? Et que Élie est arrivé vers cette veuve, on le voit, un roi, hein, et lui demande de lui faire à manger. Et la veuve lui répond, voici, ok, je vais faire à manger, je vais prendre cette huile, je vais te donner à manger, j'ai juste de quoi assez, hein, je paraphrase, assez faire à manger pour moi, mon fils, on va manger, oui, ça va être bon, mais après, on va mourir. C'était ça ses attentes. Elle s'attendait à faire à manger pour la dernière fois. Mais contre toute attente. On va dire ensemble, contre toute attente. Contre toute attente. Le Seigneur a envoyé la provision. Le Seigneur a envoyé la provision. Parce que le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est hein, un mot qu'on entend chuchoter dans le milieu chrétien. Le réveil. Oh, le réveil, s'en vient, le réveil. Hein? Et si on ne fait pas attention, excusez-moi l'expression, on over-spiritualise. Hein? Parce que quand on parle de réveil, on parle de quoi? On parle d'action surnaturelle du Saint-Esprit. On parle hein, des aveugles qui commencent à voir, des boiteux qui marchent. On parle des gens qui convaincus surnaturellement par le Saint-Esprit affluent dans les églises. On parle dans certaines villes, on voit que ce soit les réveils en Californie, en Angleterre, même ici à Toronto, au Canada, on voit des bars qui se vident complètement. Il n'y a plus de gens qui y vont. On voit la maladie, les villes qui sont déclarées les villes les plus en santé aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mouvement du Saint-Esprit. Mais, on va regarder quelque chose dans la parole. En Matthieu 10, la parole nous dit, au verset, donc Matthieu 10, le Seigneur appelle ses disciples, les 12. Au verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Au verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 28, hein, on va faire le lien, je vais vous expliquer dans pas très long, c'est quoi? Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que Jésus a prescrit à ses disciples au verset 8? « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » On ne parle pas ici de réveil. Hein? On parle ici de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. On parle ici de ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai enseigné. Donc, enseignez-leur à aller prêcher la bonne nouvelle, à purifier les lépreux, à guérir les malades, à chasser les démons. Okay? Pas leur enseigner à attendre le réveil qui va pouf emmener tout ça. Parce que voyez-vous, le monde a besoin désespérément de réveil. Le monde a besoin désespérément que l'Église de Jésus-Christ vive un réveil. Mais l'Église de Jésus-Christ a désespérément besoin que chaque membre du corps de Jésus-Christ vive un réveil individuel. Amen. L'Église de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, hein? Le phare qui brille dans ces ténèbres, a besoin de personnes qui décident d'allumer leur lumière. Amen. Ah, mes amis. Et quand on entend des choses comme ça, le réflexe, c'est quoi? C'est oui, mais tous ne sont pas appelés à la même chose. Oui, mais ça ne veut pas dire que moi, je lis la parole ici. Et en Marc 16, amen, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, pardon? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui seront dans le ministère. Pas ceux qui auront reçu un appel spécial. Non, ceux qui auront cru, ceux qui auront mis leur foi en moi, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues et chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes amis, pas parce qu'on ne le voit pas aussi souvent qu'on devrait le voir, que ce n'est pas la réalité de la parole de Dieu. Pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas aussi souvent qu'on devrait le voir, qu'on doit maintenant se trouver des excuses à savoir pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas aussi souvent. Hein? Parce que le réveil, si vous étudiez l'histoire de certains réveils, vous allez remarquer que c'est jamais Dieu qui s'est levé un bon matin et qui a décidé, j'envoie mon esprit ici. Oh, OK, Drummondville, c'est leur tour. Amen. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi ici, pourquoi pas là? Il y a toujours eu des hommes et des femmes, amen, qui ont pris position. Des hommes et des femmes qui ont dit, OK, c'est assez. Amen. Parce qu'avant même de penser à ce réveil collectif, mes amis, pensons à notre réveil individuel. Pas de manière égoïste, non. Mais en sachant très bien que si chacun de nous sommes enflammés, chacun de nous sommes en feu pour Dieu, alors inévitablement, lorsque nous allons nous réunir ensemble, cette flamme va être d'autant plus grande, mes amis, et se répandre davantage sur la ville de Drummondville, sur la province de Québec, la francophonie, et au-delà, et avoir et expérimenter le réveil que tous on attend, mais que trop d'entre nous attendons les bras croisés. Mais le réveil, ça commence dans mon quotidien. Le réveil, ça commence dans ma maison. Hein? Vas-y, le réveil commence dans ma maison. Mais il y a des statistiques. Il y a des statistiques, hein, qui vous retiennent. Oui, mais mon mari. Oui, mais ma femme. Oui, mais mes enfants. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Oui, mais si ça ne fonctionne pas. Oui, mais ça fait des années déjà. Et il n'y a rien qui se passe. Oui, mais le médecin m'a dit que c'était impossible. Oui, mais le docteur m'a dit que tous ceux qui avaient ça, en l'espace de quelques temps, c'était fini. Statistique. C'est statistique. Oh, les statistiques parlent fort. Les statistiques ont une grande bouche. Hein? Les statistiques veulent faire peur. Mais ma Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que lorsque le Seigneur a donné ce mandat à ses disciples d'aller, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons, ils sont revenus tout excités. Waouh! Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pas grand-chose qui l'a énervé, le Seigneur, là. Parce que lui, c'est à ça qu'il s'attendait. Allô? Vous êtes là? C'est à ça qu'ils s'attendaient. Mais eux, les disciples, c'est « Pierre, viens. Hein? Écoute, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Wow! Ça marche! Contre toute attente pour nous, mais c'est pas contre toute attente pour lui. Hein? Mais là, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Hein? Et... Il y a un prix à payer. Hein? Parce que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on dirait qu'on a cette mentalité de tout nous est dû. Sans que j'aie besoin de faire le moindre effort. Et que ce n'est pas normal de faire un effort. Ce n'est pas normal de suer. Ce n'est pas normal de saigner un petit peu. On s'attend à ce que, hein, on est là devant le filet de soccer, c'est nous qui fait le pénalty. On est là, et là, on tire au but. Et le gardien arrête le ballon, puis on dit, « Pourquoi, Seigneur? » Mais je suis enfant de Dieu. Je prie à tous les jours, je lis ma Bible à tous les jours, j'ai lancé le ballon, il a arrêté le ballon, mais pourquoi? Il était supposé de rentrer, là je comprends plus rien, je vais plus à l'église, c'est fini. On s'attend à ce que le gardien se tasse. Il se tasse, il laisse passer le ballon. On veut des changements? Sans rien être obligé de changer. Oui, Seigneur, j'aimerais une nouvelle déco dans ma maison, mais touche pas à ce meuble-là, je veux qu'il reste là. Hein, mais la couleur, je l'aime bien, sérieusement. Mais fais quelque chose, s'il te plaît. On suit? OK. Éphésiens 6 nous dicte les armes du chrétien. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'armes s'il n'y a pas de bataille? Pourquoi est-ce que la parole nous exhorte à prendre nos armes s'il n'y a pas de bataille? Amen. Alors qu'on est là à prier, Seigneur, sois-moi de la bataille, le Seigneur dit, je t'ai donné les armes qu'il faut, bats-toi. Hein? On l'a chanté tout à l'heure, hein, je ne me rappelle plus exactement, il est avec nous à travers le feu. Amen. Avec toi, je traverse le feu, c'est ça. Avec toi, je traverse le feu. Pas je contourne, pas j'évite, pas je me sauve de, je traverse le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où tu es en plein dedans. Amen? Quand tu traverses le feu, ça signifie qu'il y a un moment où tu marches en plein dedans. Pas tu le regardes de loin, pas tu le regardes de haut, pas tu l'évites, pas tu l'éteins avec ton instincteur, mais tu marches carrément dedans. Mais mes amis, c'est là la foi. Tu n'as pas besoin de foi pour la guérison quand tu es toujours en bonne santé. Allô? Tu n'as pas besoin d'exercer ta foi pour la provision, hein? Quand tu as toujours ce qu'il faut dans ton compte de banque. Hein? Elle sert à quoi, cette foi-là? Elle sert à ça. Elle sert pas à courir épeuré quand le feu arrive. Elle sert à dire, « Ah, je peux traverser le feu. » C'est à ça que sert notre foi. Amen. Parce que, faute de me répéter, j'aime tellement cet exemple-là, le Seigneur n'a pas éteint le feu dans la fournaise. Amen? Aurait-il pu? Oh oui, il aurait pu. Certainement. Mais il n'a pas éteint le feu. Il les a accompagnés. Il était avec eux. Amen? Il y a un réveil, je le sais. Mais il y a un prix à payer. Parce que lorsque je lis les histoires des différents réveils qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, oh, il y a des gens qui ont payé le prix. Oh! Hein? Il y a des gens qui ont payé le prix. Mais la première chose qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est cette divine insatisfaction. Hein? La première chose qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu pour expérimenter ce réveil, collectif mais d'abord individuel, c'est quoi? C'est cette divine insatisfaction. Je m'explique. Une divine insatisfaction, c'est ce moment où vous mettez votre pied à terre, ce moment où vous tirez la ligne. Vous tirez un trait plutôt et vous dites, là, c'est assez. Hein? C'est assez. Une insatisfaction, un désir, une soif, une faim d'avoir plus. Et même si le Seigneur t'a comblé, le Seigneur t'a béni, mais tu restes insatisfait. Il y a quelque chose de plus. Hein? Il y a quelque chose de plus. Je jette mes regards dans la parole de Dieu, je lis ma Bible et je me dis, quand je compare la Bible à ma vie, à ce que j'expérimente, je dis, Seigneur, il y a quelque chose de plus. Et pour moi, c'est ça, une divine insatisfaction. Pas quelqu'un qui est juste blasé, pas quelqu'un qui en veut plus pour le plaisir d'en voir plus, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il y a et qui n'est pas reconnaissant de ce qu'il y a. Oh oui, quand tu es divinement insatisfait, tu es reconnaissant de tout ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Mais on veut plus. On veut plus pas seulement pour notre propre bénéfice, mais on veut plus parce qu'on sait qu'il y a plus. Écoute. Si quelqu'un a réservé quelque chose pour toi, il dit tout ça, c'est à toi. Pourquoi est-ce que tu en prendrais seulement la moitié? C'est ton anniversaire, quelqu'un t'amène un gâteau, et le gâteau, c'est pour toi. Ou un cadeau, peu importe, tu t'amènes un cadeau. Tiens, c'est bon, je prends juste la moitié du cadeau, garde le reste. OK? Pourquoi? Est-ce que tu es insatisfait? Hein, la parole de Dieu nous dit, cherchez. Hein, cherchez. Qu'est-ce qu'on lit? Excusez-moi. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a un prix à payer. Il faut le chercher de tout notre cœur. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Ça veut dire quoi? Oui, 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 ça veut dire mettre du temps dans la prière peut-être que vous n'avez jamais mis auparavant. Oui. Parce que la prière, c'est quoi? Oui, c'est la communion avec Dieu. Non, la prière, c'est pas juste à table avant de manger. Non, la prière, c'est pas juste pour prier Dieu quand ça va mal dans votre vie. La prière, c'est pour avoir une communion avec votre Père céleste. Et si vous voulez le connaître, si vous voulez connaître les choses qu'il a réservées pour vous, il va falloir que vous passiez plus de temps avec lui. Cherchez de tout votre cœur. Oui, il y a des moments. Il y a des moments, hein, comme il a fallu que je fasse cette semaine, il y a des moments où j'ai dû fermer la télé. Dire non, je vais passer du temps dans ma parole. OK? Hein? Telle compétition s'en vient, tu sais, que non, on ferme la télé. OK? Et chacun d'entre nous, nous avons des domaines, des endroits comme ça où ce que nous pouvons couper. Amen? Et non seulement où ce que nous pouvons, mais je vais dire où nous devons. Où nous devons couper. Où nous devons faire ces sacrifices-là. Mais à quel point est-ce que vous en avez assez de votre situation? C'est ça, là. Jusqu'à quel point est-ce que vous en avez assez? Malheureusement, trop souvent, on attend d'avoir le dos au mur, on attend avant de ne plus avoir aucune option avant de changer, avant de prendre une décision. Et à ce moment-là, on est tellement au dos du mur, tellement sans plus aucune option, que finalement, on n'a même plus la force de se relever ou de faire quelque chose, et voilà, c'est terminé. Mais avant d'attendre d'être rendu là, pourquoi pas décider aujourd'hui que c'est assez? Pourquoi pas décider aujourd'hui que c'est fini? Parce que la divine insatisfaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne retourne plus en arrière. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vers l'avant. Vers l'avant quoi? Vers l'avant de ce que je désire. Vers l'avant de ce que je sais que le Seigneur a pour moi. Je vais vers l'avant de mon réveil. Es-tu prêt à te battre jusqu'au bout? Ou pour toi, il y a encore une sortie de secours? Est-ce qu'encore pour toi, c'est une option d'abandonner ta famille ou tu as décidé que tu allais coûte que coûte? Est-ce que pour toi, c'est une option de recommencer à consommer ou tu as décidé que c'était fini, tu allais te battre jusqu'au bout? Est-ce que pour toi, c'est une option le divorce ou tu as décidé que tu allais te battre pour ton couple? Est-ce que pour toi, c'est une option de mentir pour avoir ce que tu veux, ou tu as décidé que le Seigneur allait s'en occuper? Est-ce que pour toi, c'est une option de travailler et faire des gains malhonnêtes parce que tu as peur de manquer? Ou tu as décidé que c'était terminé? C'est temps de fermer la porte. C'est le temps de fermer la porte. Tourner la clé, de jeter la clé. Il n'y a aucun retour en arrière. Si tu veux expérimenter le réveil dans ta vie, il faut que tu prennes la décision qu'il n'y a aucun retour en arrière. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Hein? Celui qui regarde en arrière. Amen. Il n'est pas digne du royaume des cieux. Hein? Oui, mais Seigneur, laisse-moi d'abord faire ci. Oui, mais Seigneur, laisse-moi d'abord aller là. Oui, mais... OK. Quand tu seras prêt, tu viendras voir. Est-ce que vous êtes prêts? OK, vous n'avez pas besoin de me répondre maintenant. C'est à vous de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire les sacrifices que ça va demander? Tous les jours, en ce moment, il y a des athlètes qui performent, qui ont fait des sacrifices. On voit des entrevues, il y a des jeunes athlètes, qui, hein, une en particulier qui disait, « Oh, elle disait, très tôt, j'ai réalisé que je ne pourrais pas avoir la vie d'une jeune fille de mon âge. » Pourquoi? Parce qu'alors que les autres vont à l'école, parce qu'alors que les autres, après l'école, s'en vont chez quelqu'un, vont s'amuser, hein, ils fêtent et tout ça, ils jouent, peu importe. Elle a dit, « Moi, je dois m'entraîner. Je dois m'entraîner 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Je dois faire attention à ce que je mange. Je dois faire attention à quand je dors. Je dois faire attention à ce que je vais parce qu'il ne faut pas que je me blesse. Je dois faire attention. Hein? Pourquoi? Pour une médaille. » Pour une médaille. 4 ans de sacrifice, hein, le 100 mètres, c'est maximum 10 secondes. En 10 secondes, c'est fini. Hein? Allô? 4 ans de sacrifice pour 10 secondes. 4 ans de sacrifice pour 10 secondes. 10 secondes de gloire. Ouf. Alors que la Bible nous promet de vivre une vie victorieuse. On a la difficulté des fois à mettre 10 secondes dans une journée. Hmm? Pour une couronne incorruptible, la couronne de vie, la couronne que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen. Je me dis 4 ans pour 10 secondes de gloire. Waouh. Alors, c'est quoi le prix à payer pour une vie victorieuse? Amen? C'est quoi le prix à payer pour une vie de manifestation de la parole de Dieu dans ma vie? C'est quoi le prix à payer pour une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour, une vie sans inquiétude, une vie où je sais que peu importe où je vais, il y a quelqu'un qui marche avec moi. C'est quoi le prix à payer? C'est quoi le prix à payer lorsque la parole de Dieu me dit, tu ne t'inquiètes en rien, mais dans toute chose, fais savoir tous tes besoins. C'est quoi le prix à payer pour un Seigneur qui me dit « Décharge-toi sur moi de tous tes fardeaux, de tous tes soucis. » C'est quoi le prix à payer? Parce qu'une chose qu'on oublie des fois, c'est que la parole de Dieu nous dit que en lui, toutes les promesses sont oui et amen. En lui, les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est vrai, on dit oui, les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen en lui. On veut tous les bénéfices sans faire de sacrifice. Comme on dit, on veut le, hein, c'est quoi? Le beurre et l'argent du beurre. Hein? Une divine insatisfaction. De dire, ah, c'est fini. Amen. Hein, on va terminer bientôt. Et cet exemple que je veux voir avec vous, d'une dame qui a eu cette divine insatisfaction. Marc 5, 25. La dame avec la perte de sang. Hein? Okay, certains d'entre vous savez où je m'en vais avec ça, là. Hein, une dame atteinte d'une perte de sang. Marc 5, verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Est-ce que vous avez des fois l'impression que votre vie ressemble un peu à ça? Hein? Vous avez fait tout ce que vous pensiez être capable de faire, mais on dirait que ça ne s'en va pas en s'améliorant. Non seulement ça... Si seulement ça n'avait rien changé, déjà. Mais la Bible dit, non seulement ça n'a rien changé, mais ça allait en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, verset 29, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voici ici une femme qui a été prise d'une divine insatisfaction. Qu'elle dit c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est assez. Une femme qui, hein, avait toutes les raisons de se décourager. Parce qu'on vient de dire, non seulement sa situation ne s'est pas améliorée, elle n'est pas restée stable, mais elle s'est empirée. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui, à cette époque, par son le rang ou la position de la femme, ne lui permettait pas d'arriver de cette manière-là dans une foule. Et non seulement une femme, mais une femme avec un problème, une perte de sang. Et selon la loi, à cette époque, selon la parole de Dieu, cette femme-là était jugée impure. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu souffres de sang, une perte de sang, tu es jugé impur, donc tu restes chez toi, tu ne peux pas être en contact avec les gens, sinon quoi? C'est la peine de mort. Allô? On peut te lapider. Hein? On peut te lapider. Rien de moins. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? C'est assez. Pour moi, c'est assez. Elle a fait face à la mort. Allô? Elle a fait face à la mort. Elle a risqué la mort. Elle a dit, c'est soit je l'ai, ou soit je meurs. Amen? C'est soit je le reçois, ou soit je meurs. C'est qu'à quelque part, il faut décider ce qu'on veut dans cette vie-là. Mais pour elle, c'était quoi? C'était de dire que de toute façon, si j'y vais pas et je reste comme je suis, je meurs déjà. Je meurs déjà parce que je me retrouve à être obligé de vivre d'une manière où je le sais que je peux avoir davantage. Donc, je suis en train de me mentir à moi-même, d'essayer de me contenter d'une vie, de vivre avec ça pendant toutes les autres années de ma vie et de me dire que c'est correct, ça change rien. De toute façon, les statistiques disent. Combien de gens se meurent en vivant comme ça? Combien de gens se meurent en se trompant eux-mêmes que leur situation les satisfait? Que leur vie les satisfait? Que de toute façon, c'est comme ça que tout le monde vit. Que de toute façon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Mais elles étaient, d'une façon ou d'une autre, je vais mourir. Parce que pour elle, elle allait mourir. Donc autant mourir en essayant, en allant jusqu'au bout. Hein? Laissez-vous pas mourir à petit feu parce que vous n'avez pas l'audace d'aller à la poursuite de ce que le Seigneur a pour vous. Laissez-vous pas mourir. Hein? Je vais inviter l'équipe de louange. La Bible nous dit qu'il faut imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a la foi, amen, il faut croire. Et il y a la persévérance, c'est il faut continuer de croire. Je continue de croire, je continue de croire, je continue de croire. Ah, peu importe ce qui arrive, j'ai un obstacle, un mur, je continue de croire. C'est ça la persévérance. C'est de ne pas abandonner au moindre obstacle. Hein, je reviens de vacances, on est allé, on a loué un petit chalet, ok, on s'en va sur une barque avec mes enfants, ma femme, et on va pêcher. Okay, première expérience de pêche en famille. Et là, mon fils prend sa canne, hein, je lui mets son verre, met la canne à l'eau, et on attend. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Ah! 10 secondes. Ah! Oh, non, ça me tente plus. Il n'y a même pas de poisson. OK. C'est drôle comment, pour des choses naturelles, simples comme ça. Hein? On trouve ça drôle, puis on est tous là, puis on comprend. Mais oui, mais écoute, si tu veux attraper du poisson, il faut que tu sois patient. Si tu veux attraper du poisson, il faut que tu sois prêt à attendre. Mais lorsqu'il en vient aux promesses de Dieu, il faut que ça morde tout de suite. Hein? Il faut que ça morde tout de suite. C'est comme le pasteur Côté me dit, parce que lui, il va souvent pêcher. Il dit, j'arrive à la pêche, je mets ma ligne. J'attends un petit peu, sinon je laisse ma ligne là, je me lève et je me mets à prier. Je commence à prier, je commence à louer Dieu, je commence à louer le Seigneur en d'autres langues. Quand je vois ma ligne bouge, oh, je reviens, je prends ma ligne et tout. Mais c'est la même chose qu'on devrait faire dans notre vie chrétienne. On lance la ligne. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est louer Dieu. C'est louer Dieu, c'est de remercier Dieu, pas attendre. C'est le louer, c'est le remercier, c'est wow. Et pendant que tu es en mode louange, tu vas même avoir oublié. Et là, oh, wow, c'est en train de mordre. Et contre toute attente, tu vas peut-être attraper un plus gros poisson que tu espérais. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Il y a une chose que je crois qu'il faut bannir dans le corps de Christ en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'inquiétude. On s'inquiète beaucoup trop. OK? Et ici, ce n'est pas le « on » qui exclut la personne qui parle. OK? Honnêtement, on s'inquiète beaucoup trop. Pour des enfants de Dieu, il a créé la mer, il a créé le ciel, il a créé tout ce qui se trouve dedans, il a ouvert une mer en deux, écoute. Ah oui, et là, il habite en moi, hein? Okay. On s'inquiète beaucoup trop. On s'inquiète beaucoup trop. Et je sais que les statistiques parlent, je sais que la réalité, ou plutôt les circonstances de la vie parlent. Mais Dieu aussi parle. Hein? Dieu aussi parle. Hein? Et c'est ça qu'il faut qu'il parle dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Ceci doit parler plus fort que peu importe ce qui se dresse contre nous dans nos vies. Amen. Et c'est là et seulement là que contre toute attente, tu vas accéder à cette promotion que personne pensait que tu allais avoir. Que les gens qui ne t'ont pas vu depuis longtemps vont te voir arriver, vont te dire « Wow, tu as l'air bien. Je pensais jamais que tu allais t'en sortir. » Qu'alors que les gens que tu pensais tes amis t'ont abandonné, le Seigneur te dit « Jamais je ne te délaisserai, jamais je t'abandonnerai. » Il va te relever, il va faire de toi quelque chose que tu n'aurais jamais même espéré, même osé penser. C'est là que contre toute attente, tu vas voir ton mariage restauré. Contre toute attente, tu vas voir ta famille réunie. Contre toute attente, tu vas voir les portes s'ouvrir devant toi que tu n'aurais même pas pu défoncer toi-même en essayant toute ta vie. La première chose à faire, ah oui, de croire, oui, d'avoir la foi, mais faut décider. Il faut avoir cette attitude de guerrier. Moi, quand je louais ce matin, wow, il y avait cette autorité dans la louange ce matin. Amen. Cette autorité, ce chant de victoire. Le Seigneur a besoin de guerriers, de guerrières. Hein, c'est guerrier, guerrière, c'est pas juste l'image, hein? Dans le champ de bataille, oui, mais moi, j'ai rien d'une guerrier, j'ai rien d'une guerrière, j'ai rien d'un guerrier. Oh, okay. Guerrier dans la prière, guerrier dans l'amour, guerrier dans le pardon, guerrier dans la foi. Okay. Alléluia. Amen. Je vais vous laisser ce matin. Amen. Contre toute attente, c'est ce qu'on va voir pour les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire mentir les statistiques dans nos vies? Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les cartes? Parce que des fois, la vie nous donne des cartes qu'on n'a pas choisies. Mais Seigneur peut nous donner des nouvelles cartes. Amen. Et ce matin, peut-être que vous êtes là et vous avez justement besoin d'avoir des nouvelles cartes dans votre jeu. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que vous jouez quelque chose, c'est jamais la bonne. Que vous essayez, c'est jamais la bonne stratégie, c'est jamais la bonne carte que vous mettez. Et vous vous demandez, mais quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce que la chance, hein, va tourner pour moi? Mais c'est pas une question de chance ce matin, là. C'est une question de décision. Et ce matin, je vous donne l'opportunité de faire cette décision. Cette décision, si ça n'a jamais été fait dans votre vie, de faire de Jésus-Christ votre Seigneur, le maître de votre vie. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus nous donne une nouvelle vie. Il nous donne des nouvelles cartes. Un nouveau jeu, un nouveau départ. Et non seulement il nous donne des nouvelles cartes, mais il nous montre, il nous dit comment les jouer. Amen. Wow. Que peu importe ce que nous avons fait avant, peu importe votre vie passée, peu importe vos échecs, vos manquements, vos péchés, le Seigneur te dit ce matin, je veux te donner une vie nouvelle. En fait, il dit, je suis allé sur la croix justement pour toi. Et j'ai pris tous ces péchés, j'ai pris toutes ces fautes sur moi. Pour qu'aujourd'hui tu puisses marcher en nouveauté de vie. Pour qu'aujourd'hui tu puisses marcher déchargé, non seulement de ces péchés, mais de la culpabilité de ces péchés qui te gardent enchaîné et qui t'empêchent d'avancer. Te débarrasser des statistiques qui pèsent sur toi. Et te mettre, de te revêtir du manteau de mon amour, de ma miséricorde et de ton pardon. Wow! Je ne sais pas si ça parlait à quelqu'un ce matin. Tu as une décision à prendre. Es-tu divinement insatisfait de ton ancienne vie? Es-tu divinement insatisfait de ce que tu es en train de faire en ce moment? Parce que c'est l'heure pour toi de lui donner ton 100%. Donc, si ça a parlé à quelqu'un ce matin, je vais t'inviter. Je vais t'inviter à venir avec moi devant. Et on va prier ensemble. On va s'accorder dans la prière. Donc, je vais juste compter jusqu'à 3. Et si c'est vous, je vous invite à venir. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Gloria Shanto. Hallelujah. Sinon, les autres, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous lever. Je vais vous inviter à vous lever. Et parce que je crois sincèrement que ça s'adressait à quelqu'un. Amen. Et c'est vrai, peut-être que c'est gênant de s'avancer et tout ça, mais je crois que ça s'adressait à quelqu'un ici ce matin. Mais le Seigneur, la beauté, c'est qu'il est toujours là. Aujourd'hui est le jour du salut. Vous avez la possibilité de dire oui encore aujourd'hui. Oh. Donc, on va juste, en terminant, le remercier, le louer. Hein, je vous ai posé la question tout à l'heure, êtes-vous prêt? Hein? Êtes-vous prêt à faire les sacrifices qu'il faut? C'est entre vous et Dieu maintenant. Prenez ces derniers instants pour examiner votre cœur devant le Seigneur. Dire, Seigneur, quel sacrifice tu veux que je fasse? Il y a des choses que tu veux que je coupe. Il y a des choses que tu veux que je mette de côté. Est-ce qu'il y a des statistiques, hein, des paroles prononcées contre moi qui me pèsent? On se débarrasse. Il n'y a personne qui sort d'ici ce matin encore avec le manteau des statistiques. Amen. C'est le temps de vous débarrasser de ce manteau. Vous le laissez, hein, ici. Vous en débarrassez. Rentrez pas à la maison avec ce manteau-là. Rentrez pas à la maison avec le manteau de la culpabilité, le manteau de la honte. Parce que ce n'est pas celui que le Seigneur vous donne. Oh non. Parce que le Seigneur nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Merci que tu es Dieu, que nul autre n'est comme toi, que nul n'est comparable à toi, Seigneur. On vient devant toi, Seigneur, en toute humilité, Seigneur Dieu. Oh, en toute humilité, mais avec foi, en croyant, Seigneur, que tu es mort pour nous. Tu es mort pour nos péchés, que tu es ressuscité des morts. Alléluia. Et par ta résurrection, Seigneur, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu tout ce qui nous empêchait d'avancer et de mener cette vie conforme à ta volonté. Tu nous as donné ton Saint-Esprit afin qu'on puisse marcher selon ta volonté. Donc merci Seigneur que nous refusons de porter une journée de plus, une seconde de plus le manteau de la culpabilité. Nous refusons de porter une seconde de plus le manteau de la honte, le manteau des statistiques, le manteau des mauvaises paroles, le manteau de la condamnation, Seigneur. Mais nous décidons de porter ce matin, de quitter avec le manteau de vie, alléluia, le manteau de résurrection, le manteau de guérison, le manteau de restauration, le manteau de la paix, alléluia, le manteau de ton pardon, de ton amour, de ta miséricorde, alléluia, oh que tu as versé gratuitement, infiniment, abondamment sur nous, Seigneur Dieu. Oui, nous nous saisissons de tout ce que tu as pour nous, Seigneur Dieu, et nous avons cette divine, Seigneur, insatisfaction, cette divine insatisfaction qui dit oui, Seigneur, à tout ce que tu as préparé d'avance pour nous avant la fondation du monde, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, Riababa Chanto, si, merci Seigneur. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ouh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh, merci que tu entends leur cœur, Père éternel. Alléluia. Oh, oui, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Oui, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, Seigneur, qui surpasse toute entendement, toute intelligence, Seigneur. La paix, Seigneur Dieu. Oui, la paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Alléluia. Oh, babababa. Chante, robot, c'est les bambas. Oh, alléluia. Faut se battre avec lui. OK? Je ressens cette âme de guerrière démunie. Qui veut se battre, mais qui ne sait pas comment se battre. Et avec quoi se battre? Il faut que tu se battre avec lui. OK? C'est bon? Avec lui, avec les âmes qu'il t'a données. Amen. Alléluia, soyez bénis. Amen. Oh, alléluia, remercions une dernière fois le Seigneur. Oh, alléluia, merci papa. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia, allez, passez une bonne semaine. Bonne semaine. Alléluia. Méditez ces choses. Soyez bénis.